Bonsoir à tous. La canicule passe au rouge dans 4 départements. Le directeur général de la santé explique qu'il y a danger à 43 voire 45 degrés. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse qui sont maintenant en rouge sur la carte de vigilance pour voir ce que signifie ce cran supplémentaire et au sommet du Mont Blanc notamment. Au sommaire également ce soir, 2 blessés par balle devant une mosquée de Brest, nous y sommes. Marion Maréchal à l'université d'été du MEDEF, des dents grincent. L'ex-convoyeur Tony Musulin a arrêté des billets plein les poches dans une banque de Londres. Amandine Henry, la plus américaine des Bleus. Et au téléphone sonne, Fabienne, roulage de pelle sur la plage ou tentative, c'est ça?
Ou râteau, donc ah. On reste un peu dans les ustensiles puisque c'est notre dernier téléphone sonne avant que l'équipe d'été prenne le relais. Restons légers, en accord avec la chaleur d'ailleurs. La colo, Sébastien, le premier baiser, le stage de voile avec Kevin ou Jennifer, le cocktail à bord de la au bord de la piscine, les histoires brèves mais intenses, les râteaux de compétition, les ruptures olympiques, des rencontres peut-être plus simples puisqu'on oublie un peu les applis l'été. Partageons ça ensemble, racontez-nous, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. Vous pensiez avoir assez transpiré, vous pensiez que le mercure presque à 40, c'était déjà beaucoup, et bien le thermomètre monte encore et la vigilance canicule s'étend, 80 départements sous haute surveillance et 4 donc désormais, et pour la première fois, en rouge, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône où nous serons dans un instant. Parce qu'il y a danger pour le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.
La vigilance rouge ne se limite pas à une analyse des facteurs météorologiques, mais bien à une alerte sanitaire maximale, car je le rappelle, la chaleur a un impact réel sur la santé, un pic de chaleur davantage, une vague de chaleur encore plus, et une canicule a un impact important, surtout si s'accumulent des pics diurnes, une chaleur nocturne, des nuits courtes et non reposantes, et la durée de l'épisode. À ces niveaux de température, la chaleur intense est dangereuse pour tout le monde et peut tuer en cas d'activité physique extérieure ou lorsqu'un enfant est laissé dans une voiture seulement quelques minutes. Nous déplorons déjà des décès par noyade ou lors d'activités physiques intenses en plein soleil, mais l'impact réel de cette canicule sur la mortalité ne sera disponible que dans quelques semaines.
Jérôme Salomon, le directeur général de la santé au micro de Lisa Guyenne. Bonsoir Olivier Martoc.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes à Marseille, Olivier, Bouches-du-Rhône, l'un des 4 départements en vigilance rouge. À quelle température faut-il s'attendre chez vous demain et que signifie vigilance rouge ?
Eh bien écoutez, Météo France annonce 45 degrés à l'ombre demain à l'intérieur des terres vers Carpentras, Nîmes et Aix-en-Provence. Moi j'ai fait un reportage sur une plage cet après-midi avec un thermomètre et sur le sable au soleil, la température était de 53 degrés pour un 34 annoncé officiellement par la météo. Des températures extrêmes, d'où le ton très solennel, vous allez l'entendre, du préfet de région Pierre Dartout qui lance un appel à la vigilance de tous.
Il faut bien comprendre que nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. C'est la première fois en France que le niveau rouge de l'alerte est prononcé pour ce qui concerne la canicule. C'est la première fois. Nous étions dans un état de vigilance orange où le risque portait surtout sur les personnes les plus vulnérables. Et dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant, c'est l'ensemble des personnes, quel que soit leur état de santé, quel que soit leur âge, qui sont potentiellement vulnérables.
Alors les principales mesures, rapidement Sébastien, toutes les épreuves sportives sont annulées, les écoles seront ouvertes et les cantines assurées, mais il n'y aura pas d'activité de plein air. Les services des urgences et de secours sont renforcés évidemment, avec une attention particulière portée sur les sans-domicile fixe. Un camion douche est déployé ce soir dans les rues de Marseille pour les rafraîchir. Et puis la grande question ici concerne la nuit étoilée qui devait avoir lieu demain, avec un grand banquet sur le Vieux-Port, un feu d'artifice et un concert. 100 000 personnes étaient attendues. Le préfet annoncera sa décision demain à la mi-journée.
Il y a des chances qu'il annule. Merci Olivier Martoc en direct de Marseille. Des températures au-delà de 42 degrés, parfois autour de 44 et même peut-être encore plus chaudes. Les canicules s'emballent et les records commencent à tomber. 41,9 à Saint-Julien-de-Pérolas aujourd'hui dans le Gard. Record absolu en France pour un mois de juin. Le précédent datait de juin 2003, 41,5 degrés. C'était à Lézignan-Corbières dans l'Aude. D'une chaleur qui ne fait pas vraiment peur à Carpentras dans le Vaucluse, l'un des 4 départements en rouge, où les 45 degrés annoncés demain sont attendus avec sérénité. Reportage Elsa Vandevielle.
On suffoque dans les ruelles en centre-ville. Enfin, pas tout le monde apparemment. Cette commune est peuplée d'irréductibles carpentraciens comme Marie-Dominique.
Bon, ça va tout le monde. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, on prend aussi beaucoup de recul pour éviter qu'il y ait des incidents avec les personnes fragiles.
45 degrés attendus en cette fin de semaine. Pour Julien Bois, gérant d'un supermarché, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat.
On est solide dans le sud. Tout le monde s'alarme pour nous et nous, ça va.
Antonio, un client, papote avec le gérant.
Bah là-dedans, on est bien.
Vous supportez la chaleur, mais à l'intérieur, avec la clim ?
Pas de clim.
Bon, il y a les congélateurs et tout ça,
quoi. Il y a les frigos qui fonctionnent, mais il n'y a pas la clim.
Et des gros murs en pierre.
On ne la fait pas au Carpentracien, un peu plus loin, place Charles de Gaulle. Il semblerait qu'on puisse trouver un peu de fraîcheur près d'une brasserie.
La fontaine, mais bon, ça va pas grand-chose, ça rafraîchit pas trop, à moins de mettre les pieds dedans.
Stéphane Rioret est employé ici.
On commande plus d'eau, parce qu'il y a Coca, Perrier, etc. Quoi, voilà. Mais sinon, pas plus que d'habitude. Quoi.
Il sert quand même des verres d'eau bien glacés en terrasse, où on retrouve Anne-Marie et Françoise installées tranquillement sur un divan.
L'été, c'est l'été, bon, mais il faut savoir exactement se reposer, voilà, et boire beaucoup.
C'est quand même pas la première fois qu'il fait très chaud.
Un record de chaleur historique quand même, si les prévisions sont exactes. Elsa Vandevielle, France Bleu Vaucluse pour France Inter.
Circulation différenciée encore demain, notamment à Paris, Strasbourg et Lyon, écoles fermées dans 225 communes aujourd'hui et probablement demain aussi. À Montauban, le centre pour SDF a finalement ouvert aujourd'hui sur réquisition du préfet. La maire, Les Républicains, Brigitte Barège, connue pour ses positions hostiles aux migrants, s'opposait à son ouverture. Stéphane Iglesis.
Brigitte Barège, la maire Les Républicains de Montauban, refuse-t-elle d'ouvrir un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile en pleine canicule ? Oui, explique-t-elle, mais simplement parce que les besoins en accueil dans la journée sont déjà pourvus. Brigitte Barège.
D'abord sur le plan de la canicule, où contrairement à ce qu'a pu écrire ou dire le préfet, disant que la ville n'a pas mis en place ses structures, sachez qu'on ne l'a pas attendu et que depuis lundi, toutes les structures sont en place avec le pôle solidarité, livraison de repas à domicile, livraison d'eau, ventilateur, salle réfrigérée mise à disposition. Quand je vois d'ailleurs que tous ces tweets de Mme Buzyn, de M. de Normandie, sont repris et retweetés par mon adversaire déclaré pour les prochaines municipales, M. Mardegan, qui appartient bien sûr au Parti En Marche.
Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture du Tarn-et-Garonne, assure que la réquisition faite hier par le préfet est tout à fait nécessaire.
C'est pourquoi, pour des raisons humanitaires, sachant qu'on avait un local qui a priori permettait d'accueillir décemment ces personnes, le préfet, hier, a usé de son pouvoir de réquisition pour faire ouvrir immédiatement ce local.
L'accueil Montauriol est nécessaire. Jean-Luc Prince, de l'association d'aide aux réfugiés de Montauban.
En termes d'accueil de jour, il y avait un vrai besoin qui avait été d'ailleurs diagnostiqué par les services de l'État dès la fin 2017. Et à leur demande, nous avons créé cet accueil de jour.
Montauban sera forcément l'un des points chauds des futures municipales. Montauban, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Alors c'est toujours la même question, comment rafraîchir cette atmosphère brûlante ? Nous étions hier soir dans la cathédrale de Nancy. Voici des pistes à l'échelle des villes, on peut multiplier les allées végétales, multiplier les points d'eau aussi. Il faut surtout, Célia Kiré, éradiquer deux ennemis principaux, béton et bitume.
39 degrés à l'ombre sur une dalle du 13e arrondissement. Le béton omniprésent fait grimper le thermomètre de Fabrice Fouriot, conseiller à l'Agence parisienne du climat. Mais à quelques mètres, il suffit d'une allée végétale pour calmer le mercure qui redescend de 1 à 2 degrés.
On sent moins le rayonnement venant du sol. On sent qu'il y a une fraîcheur relative par rapport à l'endroit où nous étions juste avant, du simple fait que le sol ne renvoie pas sous forme infrarouge la chaleur qu'il est en train d'accumuler sous l'effet du rayonnement.
Végétalisé, créer des courants d'air. Pour Fabrice Fouriot, il faut également remplacer le béton des immeubles par d'autres matériaux.
Je pense notamment au béton de chanvre, qui est le mélange de chaux et de chanvre, qui permet d'avoir de l'inertie en même temps qu'une bonne résistance thermique. Les ravalements de façade avec matériaux biosourcés sont tout à fait adaptés pour gérer les surchauffes d'été.
Mais les immeubles de ce type se comptent sur les doigts d'une main à Paris. Pour la directrice de l'Agence parisienne du climat, Anne Giraud, les villes doivent accélérer leur mutation.
Dans les espaces publics, il faut la circulation de l'eau, il faut permettre la circulation de l'air et la ventilation entre les bâtiments. Il va falloir travailler aussi sur le revêtement de sol. Le bitume est un revêtement qui relargue la chaleur, qui ne permet pas la respiration du sol.
Et par exemple, Paris veut que toutes les cours d'école soient débitumées d'ici 2030, mais pour le moment, seules trois d'entre elles en ont bénéficié.
Parmi les autres conséquences de la canicule, le transport d'animaux interdit pour quelques jours, les billets de TGV échangeables ou annulables jusqu'à dimanche sans frais. On aime l'humour de la SNCF qui déconseille de se déplacer demain. Ça va être pratique pour les premiers départs en vacances. Et puis cette image aussi, le jour où l'Assemblée vote l'urgence écologique et climatique, le premier article du projet de loi énergie et climat. Cette image de dizaines de parapentistes sur le Mont Blanc. Ils ne peuvent pas s'y poser l'été, mais canicule précoce oblige. Les voici sur le toit de l'Europe en quelques coups de vent ascendant. Nicolas Plain en faisait partie. Il raconte à Sandy Dauphin, ni très fier ni très heureux.
On a pu en fait décoller de Chamonix, juste au-dessus de Chamonix, à Plan-Prat, à 2000 mètres d'altitude. Et en parapente, en exploitant les courants ascendants, on a réussi à monter jusqu'à 5600 mètres d'altitude au-dessus du sommet du Mont Blanc. Et ensuite d'aller poser au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres d'altitude où il faisait des températures positives et la neige était vraiment très molle en fait sur une profondeur assez importante. La dernière fois c'était en août 2012 où il y a eu des parapentistes qui ont pu se poser au sommet du Mont Blanc. Et en fait là maintenant on a une interdiction de survol en juillet-août, c'était presque impossible de le faire. Et là avec la canicule qui arrive dès juin, c'est quelque chose qui a été possible de faire. C'est assez fou de pouvoir être là-haut avec tous ces parapentistes, en fait. C'est à la fois magnifique et c'est à la fois inquiétant parce qu'on se dit c'est vraiment exceptionnel et on risque de connaître ça de plus en plus avec les effets du dérèglement climatique.
Et pour aller plus loin, à défaut d'aller plus haut, la carte mondiale des records de température, les pays où il fait le plus chaud en ce moment, est évidemment sur franceinter.fr.
19h11 sur France Inter, Sébastien, des coups de feu devant une mosquée à Brest.
La mosquée du quartier de Pontanezen, deux personnes sont blessées, l'auteur des tirs a pris la fuite et Nolwenn Kiok est sur place pour Inter.
Les faits se sont produits peu après 16h. Un homme s'approche en voiture de la mosquée. Il sort de son véhicule, discute avec deux personnes présentes devant le bâtiment. Il leur tire dessus avec une arme de poing avant de prendre la fuite. L'une des personnes est gravement blessée, l'autre plus légèrement. Et l'une des deux victimes serait l'imam de la mosquée. Un important dispositif de police est mobilisé. Une cinquantaine de fonctionnaires dans le quartier qui est complètement bouclé, mais aussi dans le reste de la ville. La police scientifique et la police judiciaire sont sur place. Elles tentent d'identifier le suspect grâce notamment aux témoignages des personnes nombreuses présentes sur place au moment des tirs. À Brest, Nolwenn Kiok, France Bleu Brésil pour France Inter.
Un témoignage très fort au procès France Télécom pour harcèlement moral après les suicides de la fin des années 2000, celui de la fille d'une des victimes, la dernière retenue dans ce procès. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Son père s'était immolé par le feu.
Oui, Noémie Louvradou s'approche à la barre, jean noir, cheveux décolorés teints en rose. C'est la fille aînée de Rémi Louvradou. Ses frères et sœurs, sa mère sont juste derrière, serrés les uns contre les autres. Quand je dirai « je », c'est nous qu'il faut entendre, commence-t-elle, la voix tremblante. Avant d'asséner, ils ont assassiné mon père. Le suicide de Rémi Louvradou, immolé par le feu sur un parking de France Télécom en Gironde en avril 2011, est une véritable déflagration. On voyait bien que ça n'allait pas, qu'il était miné par son travail. Mon père était quelqu'un de profondément gentil, sociable, qui s'était renfermé dans sa bulle. Entré comme agent de ligne en 79, il avait gravi les échelons pour s'occuper de la prévention des risques au travail. En 2006, son poste est supprimé, suivent 4 années de mutations forcées, de missions sans contenu, de candidatures refusées. L'ampleur du désastre, on ne l'a vu qu'après, dit la jeune femme. Son père avait écrit à la direction de France Télécom en septembre 2009. Il terminait par ces mots, est-ce que le suicide et la solution. Tout ça aurait pu être évité, dit-elle. Il était en colère et sa colère, il l'a retournée contre lui. Elle se moque de la compassion obscène des dirigeants, des « on partage votre douleur ». Ces mots claquent comme un réquisitoire. La mort de mon père, c'est la réussite de leur objectif. La réussite de celui qui a supprimé son poste. Sur leur chaise, les prévenus se font tout petits. Aucun d'eux ne connaissait Rémi Louvradou.
Corinne Audouin, en direct du Palais de Justice. Merci Corinne. Les proches d'Emmanuel Macron sortent sans encombre de l'affaire Benalla. Le parquet classe sans suite le signalement du Sénat pour faux témoignage. Après leurs auditions sur les fonctions de l'ancien collaborateur de l'Élysée, pas de poursuite pour le directeur de cabinet du président, Patrick Strada, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et l'ancien patron de la sécurité de la présidence, Lionel Lavergne. L'Élysée prend acte et se réjouit.
Quand le MEDEF devient disruptif.
Le patronat a décidé de chambouler son université d'été cette année. Invitation tous azimuts, notamment pour parler populisme. Bernard Tapie, une figure des Gilets jaunes. Et bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Et Marion Maréchal, l'ex-député Front National, dont on parle décidément beaucoup après le dîner de mardi avec les élus LR.
Oui, la digue se fissure sous nos yeux. Peu à peu, Marion Maréchal gagne du terrain sur les décombres de la droite. Il y a eu en effet ce dîner assumé publiquement par 3 élus LR et aucun est menacé d'exclusion. Et un peu avant, un autre dîner avec des collaborateurs parlementaires de droite. Mais ce soir, l'événement, c'est cette invitation du MEDEF, perçue comme un très beau cadeau par les amis de Marion Maréchal. Quoi de mieux pour une rentrée politique à la fin du mois d'août, la même où Emmanuel Macron, ministre, avait brillé en 2015. Pourquoi les populistes sont populaires? Voilà la question à laquelle la petite fille de Jean-Marie Le Pen est invitée à répondre au cours d'une table ronde. On ignore encore qui lui fera face. Sans doute aucun élu de la majorité. Ils décident de boycotter le rendez-vous et font tout pour que le MEDEF annule cette invitation. C'est en effet une première. Jamais aucun membre du FN n'a été accueilli à ce grand raout des entrepreneurs. Ils étaient jugés trop sulfureux et trop étatistes. Marion Maréchal bénéficie d'une toute autre image et porte un discours libéral pour la baisse des impôts et des dépenses publiques. Et comme vous l'imaginez, Marine Le Pen apprécie moyennement la séquence. À 29 ans, sa nièce est invitée là où elle a toujours été rejetée.
Maxence Lambrecq, et si le gouvernement modifiait le système des retraites en attendant la réforme prévue pour 2025, l'exécutif y songe et Jean-Paul Delevoye, monsieur retraite, confirme que de nouvelles règles pourraient être lancées dès cet automne. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Quels sont les scénarios, Delphine ?
Alors, le gouvernement ne veut pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, c'est la promesse d'Emmanuel Macron. Mais les prévisions du COR, le Conseil des retraites, montrent que l'équilibre n'est pas assuré en 2025. C'est la justification avancée par le ministre des Comptes publics. Le chef de l'État, lui, ne s'en cache pas. Pour financer les mesures gilets jaunes, il va falloir travailler plus longtemps. À ce stade, l'idée serait donc d'accélérer le calendrier de la réforme Touraine qui prévoit d'allonger progressivement la durée de cotisation. Pour obtenir une retraite à taux plein, il faudrait cotiser un trimestre de plus chaque année au lieu d'un trimestre supplémentaire tous les trois ans. Certains députés de la majorité pointent cependant des risques pour les carrières hachées, en particulier celles des femmes. Autre option, inscrire un âge pivot, un âge d'équilibre avec une décote pour inciter à travailler jusqu'à 65 ans. Un tel régime pourrait être mis en place sans attendre la réforme qui doit fondre 42 régimes en un et passer à la retraite à point. Pour certains sénateurs de l'opposition, le gouvernement prend ainsi le risque d'allumer des feux dès l'automne et de brouiller le message de la future réforme des retraites repoussée à l'an prochain.
Delphine Simon.
La Tunisie doublement sous le choc.
Deux attentats suicides à une demi-heure d'intervalle contre les forces de l'ordre à Tunis. Un kamikaze d'abord contre une voiture de police sur l'avenue Bourguiba. Un policier tué et quatre blessés. Puis un kamikaze devant un complexe de la garde nationale à la périphérie de la ville. Quatre policiers cette fois sont blessés. Les attentats à la veille du début de la saison touristique ne sont pas revendiqués mais fermement condamnés par Emmanuel Macron. Son homologue Beji Caïd Essebsi est par ailleurs dans un état critique à l'hôpital après un malaise. Il a 92 ans. Tony Musulin réapparaît à Londres. L'ancien convoyeur de fonds condamné à 5 ans de prison en 2010. Le fourgon blindé détourné, vous vous souvenez, avec plus de 11 millions d'euros. 2,5 millions n'ont jamais été retrouvés. Et voilà donc que l'intéressé se présente dans une banque avec beaucoup d'argent en liquide. C'est chez vous à Londres. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Que s'est-il passé Antoine?
Il a été interpellé en fait par Scotland Yard, Tony Musulin, dans un bureau de chambre. Ce sont les responsables qui ont appelé la police, surpris de voir un homme qui cherchait à convertir l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros après avoir déjà changé un peu plus tôt quelques gros billets. Face aux enquêteurs, Tony Musulin aurait expliqué que l'argent provenait de la vente d'une Ferrari, explique le Progrès de Lyon, mais cette arrestation relance évidemment les interrogations autour du butin dérobé en 2009. À l'époque, Tony Musulin avait volé le fourgon qu'il conduisait, transféré l'argent dans une camionnette cachée dans un bosque. La police, quelques jours plus tard, avait retrouvé le véhicule sans arriver à remettre la main sur l'intégralité de la somme dérobée. Il manquait 2,5 millions. Pour l'instant, les billets que tentait de convertir l'ancien escroc ont été saisis. Une procédure a été ouverte pour non-justification de ressources. Mais a priori, même s'il s'agit d'argent volé, Tony Musulin ne retournera pas en prison. Le droit français empêche de juger deux fois la même personne pour les mêmes faits. Il ne peut donc pas être mis en examen pour recel après avoir été condamné pour vol.
Antoine Gignot, en direct de Londres. Merci Antoine. Angela Merkel, de nouveau prise de tremblement. Ce matin à Berlin, lors d'une cérémonie officielle, la chancelière a tremblé pendant environ 2 minutes, cherchant à croiser les bras pour se contenir. C'est la deuxième fois en public, après sa crise il y a 10 jours, en recevant le nouveau président ukrainien. Elle avait expliqué qu'elle était déshydratée et qu'elle allait très bien après plusieurs verres d'eau. On espère qu'elles ne souffriront pas trop de la chaleur. Ce sera demain. Les joueuses de Corinne Diacre qui jouent leur quart de finale demain soir contre les Américaines championnes du monde, les USA favorites, toujours sur le podium en 7 Coupes du monde féminines, mais qui ne font pas peur aux coéquipières de la capitaine Amandine Henry, elle-même très américaine, Cédric Guillou. Elle a joué et gagné à Portland.
L'ambiance du championnat féminin américain de football de la National Women's Soccer League, Amandine Henry la connaît bien.
Henry, and it's 1-0 Thorns.
La capitaine des Bleus s'était engagée en mars 2016 avec le club de Portland après 9 saisons de suite à l'Olympique Lyonnais.
Ça a été un plus dans ma carrière, ça m'a fait beaucoup mûrir, notamment humainement. J'ai beaucoup appris. J'ai découvert aussi un autre style de jeu, beaucoup plus direct, avec de l'impact physique.
À Portland, Amandine Henry a évolué aux côtés de plusieurs Américaines qui seront sur la pelouse du Parc des Princes demain soir. Les autres, elle les a quasiment toutes affrontées en championnat. Elle connaît donc bien les points forts et les points faibles des joueuses des États-Unis.
Je vais essayer de m'en servir et de le transmettre aux joueuses aussi, parce que voilà, il faut partager les informations. Et oui, j'espère que ça va me servir clairement. Oui, c'est sûr que ce sont mes copines en dehors du terrain, mais voilà, sur le terrain, il n'y aura pas de cadeau à se faire.
Mandy Henry, comme on l'a surnommée là-bas, était revenue en France, à Lyon, en octobre 2017, avec dans ses bagages un titre de championne des États-Unis.
Et ce soir, au Havre, premier quart de finale, Norvège-Angleterre, Fabienne.
Eh bien, tout ça c'est dit, merci beaucoup. Et ce soir, Interinfo, donc, excusez-moi.
Il va faire chaud sur le
terrain. Oui, il va faire très très chaud. Allez Sébastien, merci beaucoup, bon foot à vous, donc à demain.